C'est à ce moment-là que la direction du Parti communiste écrit « Les communistes combattent l'impérialisme en chemise brune, comme ils ont combattu l'impérialisme en frac et en chapeau haut de forme. » Les deux impérialismes. Il est peut-être nécessaire en ce moment de s'arrêter un instant là. Il a fallu la pression des militants antifascistes. Il a fallu la pression des jeunes qui s'étaient très vite regroupés. Il a fallu la pression des ouvriers et des responsables syndicaux. Il a fallu des modifications sur le plan international, donc des modifications dans les analyses de l'international communiste, pour arriver à ce changement. On peut remarquer qu'on ne trouve nulle part trace d'une analyse sérieuse émanant d'une direction du Parti communiste. Il semble bien, quand on voit objectivement toutes ces choses-là, que les événements ont déterminé ces changements. Mais à aucun moment on ne trouve une trace d'une analyse sérieuse, fondamentale, qui aurait été faite par une direction du Parti communiste. Heureusement d'ailleurs, parce que ça permet aux délégués régionaux qui ont à Bordeaux, au Gustavet, en Bretagne et en Normandie, le cœur et à Pio dans le Nord, ça leur permet d'avoir une attitude tout à fait différente de celle de la direction du Parti communiste. Et de ne pas dissocier la lutte contre l'hitlérisme de l'internationalisme prolétaire. Ce changement de décembre 1940, ça n'est pas encore le passage à l'action anti-hitlérienne ouverte, ça n'est pas encore la prise d'opposition dans le domaine militaire, mais c'est un changement parce que la direction communiste appelle à l'action contre deux impérialismes. Et cette position va durer de novembre 1940 à mai-juin 1941, soit 6 mois. Le 18 mars 1941, un numéro spécial de l'Humanité sur la Commune de Paris publie un texte signé par Maurice Thorez et Jacques Duclos, le 18 mars 1941, donc au printemps 1941. Ce texte dit « De Gaulle et Delarmina ne visent à rien d'autre qu'à priver notre pays de toute liberté en cas de victoire anglaise. » Ni le soldat de Churchill, ni le soldat de Hitler. Donc un mot d'ordre pacifiste. D'ailleurs, dans la même période, en mai 1941, quand effectivement la direction du Parti communiste appellera à la constitution d'un front national de lutte pour l'indépendance de la France, le texte parle d'un gouvernement populaire pour rétablir la paix. C'est toujours cette revendication de neutralisme et de paix qui transparaît. En réalité, dans cette période-là, Staline croyait à l'épuisement mutuel des rivaux, croyait que grâce au pacte germano-soviétique, on arriverait à un réveil du peuple allemand. Il a compté sur un réveil du peuple allemand, toujours en fonction de principes simplistes. L'appel du 15 mai 1941 s'adresse à tous ceux qui pensent français. Et cet appel à la création d'un Front National de lutte se différencie de l'appel daté du 10 juillet, qui est en réalité l'appel de septembre 1940, qui s'en prenait violemment aux socialistes et aux radicaux, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Dans la déclaration de septembre 1940, les socialistes et les radicaux étaient pris violemment à partie comme naufrageurs de la patrie, comme ayant participé au naufrage. Tandis que dans l'appel du 15 mai 1941, il n'y a que les traîtres qui soient exclus. Pourquoi ces changements ? Parce que l'international communiste a vu aussi des événements intervenir. L'Allemagne a envahi la Bulgarie, la Grèce et la Yougoslavie pendant le courant des mois de mars et d'avril 1941. Sans doute, ces événements aussi ont fait avancer la réflexion de l'international communiste. En tout cas, le 25 mai 1941, l'Humanité écrit encore « La guerre impérialiste d'Hitler, pas plus que la guerre impérialiste de Chamberlain, n'est notre guerre. » Enfin, pour ceux qui avaient appelé en juin et juillet 1940 à fraterniser avec l'armée allemande, 10 mois plus tard, la position était quand même très différente. Et encore le 20 juin 1941, après la grève des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, l'Humanité écrit, s'adressant aux mineurs, ça s'appelle une adresse officielle du comité central du PC aux mineurs qui ont repris le travail, « Restez unis et dites-vous bien que ce n'est pas dans la victoire d'un impérialisme sur un autre que réside notre salut commun. » La victoire d'un impérialisme sur un autre le 20 juin 1941, le temps que ce texte arrive entre les mains des communistes, le 21 juin était passé et tout le monde savait que l'armée hitlérienne était entrée en URSS. On peut retenir de cela que le Parti communiste a combattu, dans cette période, le Parti communiste a combattu le capitalisme avant de combattre l'envahisseur. Il a combattu la réaction intérieure avant de combattre le fascisme extérieur. C'est la ligne de l'Internationale communiste qui a été très nettement expliquée par Dimitrov en novembre 1939. Il disait « La tâche principale de l'heure, c'est de mobiliser les grandes masses pour la lutte contre la guerre en cours, pour mettre fin à cette guerre. » Vous savez que Staline y croira jusqu'au 20 juin 1941. Pendant cette période très importante, de décembre 1940 à mai-juin 1941, un fait nouveau est apparu. Ça a été la constitution de groupes spéciaux de protection au sein du Parti communiste, ce qu'on a appelé l'organisation spéciale, et qui allait donner naissance plus tard aux francs-tireurs et partisans, aux FTP. Il faut signaler quand même qu'en avril 1941, Gabriel Péri avait publié « Le nazisme n'est pas le socialisme ». C'était un document fondamental, dénonçant le chauvinisme agressif des nazis. Et Gabriel Péri disait « Un seul impérialisme est actuellement dangereux et c'est l'hitlérisme ». Le 18 mai 1941, il a été arrêté. On n'a jamais su pourquoi ni comment. En février 1941, Georges Politzer avait publié « Sang et or, le mythe du XXe siècle ». C'est à signaler également parce que c'était une publication qui se trouvait en rupture par rapport à la ligne officielle du parti. Il fustigeait le théoricien nazi Rosenberg. Il s'agit donc en fait, dans ces deux cas sur lesquels je ne veux pas m'étendre, de divergences profondes avec la direction officielle du Parti communiste, visant d'une part l'analyse de l'hitlérisme et du caractère exact de la guerre, et d'autre part l'action réelle à mener. En cinquième chapitre, on en arrive, dans la ligne du Parti communiste, à un retour au front français. Alors c'est la période que vous connaissez sans doute le mieux. Elle commence avec l'agression allemande contre l'Union soviétique. C'est une surprise pour tout le monde. Vous savez que Staline a fait fusiller des soldats communistes allemands qui avaient passé les frontières, le front exactement, qui avaient passé la ligne, pour prévenir les autorités soviétiques que dans 2 jours, l'armée allemande allait attaquer l'Union soviétique. Staline a fait fusiller les Allemands, en disant que c'était des provocateurs. Il ne croyait pas le message que lui avait fait remettre Zorg, qui se trouvait au Japon, qui lui avait signalé la date exacte et le lieu exact de l'agression. Et il croyait que ceux qui lui donnaient ces renseignements-là agissaient, parce qu'ils étaient, dans le meilleur des cas, comme Zorg, influencés par les autres agents secrets qu'ils étaient obligés de fréquenter. Il croyait à l'intoxication. Il n'a jamais cru à ce qui allait se passer. pas plus que la direction du Parti communiste, d'ailleurs en France, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'Humanité du 20 juin 1941. Tout le monde, depuis octobre 1940, croyait à l'épuisement des deux impérialismes, mais ne croyait pas à la possibilité pour Hitler de faire face sur deux fronts. Le front occidental s'était figé. Hitler pouvait espérer que le front ouest ne bougerait plus tant qu'il agresserait l'URSS. C'est sans doute ce qu'il espérait, et la seule explication qu'on puisse trouver au voyage de son adjoint direct, Rudolf Hess, L'Humanité du 20 juin 1941, que je vous ai déjà cité à cause de sa vue vraiment prodigieuse, écrivait aussi « Les traîtres de Vichy font tuer des Français en Syrie pour l'Allemagne, tandis que De Gaulle et Catroux en font tuer d'autres pour l'Angleterre. À bas la guerre impérialiste. » Le 20 juin 1941. Et puis brusquement, l'invasion à l'Est, alors, le parti communiste qui avait été seul pour l'Espagne républicaine, seul contre Munich, seul contre la guerre de 1939, seul à parler de guerre impérialiste en mai 1940, d'un seul coup, n'est plus seul. Puisque des forces de résistance se sont déjà organisées depuis 1940, c'est de ce côté-là qu'il va trouver, qu'il va chercher des alliés. En tout cas, très vite, il bascule vers la stratégie frontiste. Il se retrouve plus à l'aise dans cette stratégie d'union avec toutes les forces dites patriotiques ou gaullistes qu'il ne l'était quand il avait à attaquer la guerre en la dénonçant comme guerre impérialiste. Je vous ai dit tout à l'heure que l'appel à la création d'un front national, c'est contre la guerre impérialiste, pour un gouvernement capable de rétablir la paix. Et puis, cette organisation devient une organisation qui servira de soutien logistique au FTP, dans laquelle des communistes militeront activement, bien sûr. Mais, dans toute cette période, le Parti communiste s'emploiera à réaliser le front le plus large, comme s'il souffrait encore des années d'isolement qu'il a connues, et comme si plus rien ne lui faisait peur, pourvu que ça puisse être un allié, éventuel, incertain, chancelant, provisoire, comme disait Lénine en son temps. Le parti se renforce parce que l'URSS est attaqué. Il passe à l'action politique. Il fait franchir une nouvelle étape, ainsi, par rapport à l'action revendicative dans laquelle il s'était cantonné. L'action revendicative elle-même s'intensifie par la pénétration des organismes de Vichy. Des cadres nouveaux sont arrivés, en particulier des jeunes et des ouvriers, qui ont été préparés dans les conditions très difficiles d'avant juin 1941. Et le Parti communiste a centralisé et perfectionné ses moyens de liaison et ses moyens de propagande. Il a fait naître de véritables organisations de masse satellites autour de lui, comme le Front National, l'Union des Femmes Françaises, les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, le Front Patriotique des Jeunes. Des jeunesses et du parti, on a détaché des hommes qui se retrouvent en groupes distincts et se spécialisent dans les sabotages. Au début, et même jusqu'au printemps 1942, ils ont encore des responsabilités dans l'activité civile du Parti communiste, et puis, après le printemps 1942, les dégâts effectués par les policiers convainquent la direction du Parti communiste qu'il faut couper toute relation entre ceux qui font des sabotages et de l'action directe et ceux qui sont chargés de l'organisation clandestine du PC. Ça devient l'autonomie des francs-tireurs et partisans. Et alors, un caractère militaire un peu apparaît dans toute l'activité des militants communistes. Quelques aspects de ce développement. Premier aspect, le Parti communiste aura souvent du mal à distinguer son action politique de celle du Front National. Ça, c'est un problème que les militants communistes connaissent bien. Comment différencier à certaines périodes l'action du Parti communiste de celle des syndicats ? Comment, dans une période, différencier l'action du Parti communiste au moment de la guerre froide de celle du mouvement de la paix. Au moment de la guerre chaude, pendant l'occupation, comment distinguer l'action du Parti communiste de celle du Front national? Les militants s'y perdaient quand même un peu. La distinction d'avec le Front national se faisait surtout à propos de l'Union soviétique, d'une part, puisqu'il n'était pas demandé à tous les militants du Front national clandestin d'être des amis de l'Union soviétique, et d'autre part, à propos de l'action revendicative qui était plus spécifiquement ouvrière. Deuxième aspect de ce développement, à partir de la fin 1942, le Parti communiste est en mesure de reconstituer des formations syndicales distinctes de celles de la Charte du Travail. Ces comités populaires, dont le mot d'ordre avait été lancé en 1940 par Frachon d'ailleurs, serviront de base à l'organisation de la future CGT clandestine, qui ne sera, vous savez, reconstituée au PRE que le 17 avril 1943. Troisième caractéristique, d'autres organisations sont nées et qui ne sont pas des organisations politiques et qui ont une activité importante, sont des organisations de résistance. Avec elles, le Parti communiste est amené à une politique frontiste, c'est-à-dire à atténuer le caractère de classe de son action et à privilégier le caractère patriotique de sa politique. Parallèlement, je dois dire par parenthèse que cette orientation n'a pas toujours été comprise convenablement par des anciens militants communistes, qu'on a pu retrouver dans la clandestinité, qui ont eu des attitudes correctes, qui ont aidé des camarades communistes, mais qui ne comprenaient pas et n'admettaient pas l'attitude patriotique du Parti communiste, qui ont eu une activité clandestine parce qu'ils étaient communistes, mais sans admettre du tout ce qu'ils appelaient d'ailleurs l'embourgeoisement. La ligne patriotique du PC, pour eux, c'était l'embourgeoisement. Parallèlement, les organisations de FTP sont amenées à des liaisons avec d'autres formations de résistance. Ce n'est pas ici le lieu de détailler, mais ne serait-ce que pour les coordinations, les FTP étaient amenés à connaître dans l'action d'autres hommes qui n'étaient pas forcément des communistes. Ces trois aspects sommairement évoqués du développement de la ligne frontiste dans les conditions de la guerre se traduisent, je crois, physiquement dans le triangle clandestin de direction, c'est-à-dire Duclos, Frachon et Tillon. On retrouve là le politique, Frachon, le mieux informé des problèmes d'action syndicale, et Tillon, des problèmes des organisations de résistance. Quels événements dans cette période? Le 7 décembre 1941, Pearl Harbor. Jusque-là, l'Amérique n'était pas en guerre. Un ambassadeur américain existait toujours à Vichy. Le 8 novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord. C'est une date importante, parce que le 8 novembre 1942, une partie assez importante de la bourgeoisie vichyste en France décide de choisir les USA. Elle est représentée par Pucheux, par Flandin et par Darlan, qui ont été des vichystes convaincus, qu'ils sont encore d'ailleurs. Par réaction, l'Allemagne envahit toute la zone qui était jusque-là zone occupée. Et en même temps, c'est la fin de l'illusion pétiniste. Pétain avait pu donner l'illusion, surtout auprès des anciens combattants qui l'avaient connu, qu'il ménageait la chèvre et le chou et qu'il sauvait les meubles en face des Allemands. L'invasion complète de la France démontre la fin de cette est à l'origine de la fin de cette illusion. Tous les courants politiques se reconstituent et se restructurent. Et c'est important parce que quelle analyse fait à ce moment-là le Parti communiste ? Il analyse de la façon suivante ce qui se passe dans la bourgeoisie. Il y a pour lui une fraction de la bourgeoisie qui est restée pétainiste. Il y a une fraction de la bourgeoisie qui est devenue américaniste. Et il y a une fraction de la bourgeoisie qui est gaulliste. Vous devinez tout de suite quelle sera la tactique frontiste de la direction du Parti communiste. le plus possible de relations et d'actions communes avec la fraction gaulliste de la bourgeoisie française. Et contre qui? Eh bien, contre la fraction américaniste et la fraction pétiniste. Il y a là une situation très favorable au développement de la stratégie nationaliste du PC. De Gaulle a besoin en même temps d'être incontesté, je vous le disais tout à l'heure. Le 8 janvier 1943, Fernand Grenier part pour Londres. Le 10 janvier 1943, De Gaulle envoie une lettre à la direction du Parti communiste qu'il remercie pour la mise, alors il écrit qu'il remercie la direction du Parti communiste pour la mise à ma disposition en tant que commandant en chef des vaillantes formations des FTP. Dans l'Humanité du 21 janvier 1943, Grenier écrit « Nous traduisons le sentiment des Français en proclamant notre confiance dans le général de Gaulle qui, le premier, leva l'étendard de la résistance. » Le 2 février 1943, c'est la capitulation allemande à Stalingrad. Le 15 mai 1943, la constitution du Conseil national de la résistance. Sur le plan international, pour faire plaisir à ses alliés, Staline dissout l'internationale communiste. Conséquence, eh bien, sous prétexte de laisser à chaque parti communiste une politique nationale, ce sera en fait la mainmise directe de Staline sur tous les partis communistes. Ce n'est pas seulement pour plaire à ses alliés qu'il l'a fait, c'est aussi pour se débarrasser d'un système qui ne lui donnait pas entière satisfaction. Le 8 novembre 1943, c'est l'insurrection corse. L'insurrection corse aurait dû donner à réfléchir à la direction du Parti communiste clandestin. Pourquoi? Parce que l'insurrection corse, c'était à l'évidence la démonstration de ce que donnait la tactique frontiste. En Corse, il y avait eu un Front National, c'était même pratiquement la seule organisation qui existait, et dans laquelle se retrouvaient tous les Corses adversaires de l'armée italienne et de l'armée allemande. À l'insurrection corse, c'est la résistance qui prend le pouvoir. Or, que se passe-t-il? Se passe que dans les comités de libération, les organismes officiels ont introduit des éléments non résistants, les organismes officiels, les organismes des préfets de Vichy, ont introduit des éléments non résistants. Le préfet a choisi, parmi les résistants, il a fait un tri pour choisir une direction départementale pour le département de la Corse. Et le Front National Corse éclate. Ça aurait dû faire réfléchir la direction du Parti communiste. Or, la direction du Parti communiste maintient plus que jamais sa ligne frontiste. Nulle part ailleurs qu'en Corse, les conditions ne seront plus favorables pourtant à la création et au maintien de formes nouvelles de démocratie. Et les communistes corses n'ont pas d'indication de tenter d'établir des formes nouvelles de démocratie dans ces conditions-là. Ils se rangent aux décisions des autorités imposées par les Alliés. C'est en fait l'expérience corse, la préfiguration de ce que sera septembre 1944 en France. Une chose intéressante, en mars 1944, la direction du Parti communiste lance un appel à une promotion « Libération de la France ». Or, dans ce texte, il est écrit qu'on fait appel aux anciens membres demeurés jusque-là sans liaison. C'est-à-dire que la direction du Parti communiste, dans ce document de mars 1944, dit à tous ceux qui se sont tenus pendant 4 ans à l'écart de toute action, et qui ont laissé faire les autres en les regardant se faire tuer, rejoignez-nous et nous passons l'éponge. Pourquoi ? Parce que la direction du Parti communiste va avoir besoin de ces hommes-là pour refaire sa politique à la libération. la libération approche, et la politique que veut faire la direction du Parti communiste, elle ne peut pas être faite uniquement avec les militants communistes qui sont apparus dans la lutte clandestine. La politique que le Parti communiste va essayer de refaire à la libération, ça va être la reprise de ce qui n'a pas pu être fait en 1937, la tentative de reprise, toujours avec des métros de retard, d'une ligne qu'on a dû abandonner, et pour refaire cette politique de front populaire élargi et de front français, eh bien, ce n'est pas les combattants de la clandestinité qu'il faut. D'abord parce qu'ils sont jeunes, ensuite parce qu'ils sont révolutionnaires, enfin parce qu'ils espèrent que la libération, ça va être une transformation révolutionnaire du pays. Ce qu'il faut à la direction du Parti communiste, ce n'est pas cela. C'est ceux qui sont restés à l'abri qu'il faut vite aller rechercher et à qui il faut garantir le pardon pour qu'on puisse s'appuyer sur eux et refaire en 1944 la politique abandonnée en 1937. Le texte dit d'ailleurs, venez faire votre travail de communiste dans le parti qui lutte pour l'unité de tous les Français. C'est-à-dire que c'est une allusion directe, vous ne l'avez pas fait jusqu'ici, votre travail de communiste, il est temps, mars 1944, venez donc le faire. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement en Normandie. Le programme du parti à l'époque, c'est la levée en masse. Les FTP et les FFI ne suffisent plus, ils doivent mener la guérilla. Tout le peuple doit s'unir, s'armer et se battre et constituer des milices patriotiques. Que le peuple se libère lui-même partout où il le pourra. En juillet 1944, je passe rapidement sur les événements du Vercors pour signaler seulement que Fernand Grenier, qui était entré dans le Comité français de libération nationale à Alger comme ministre de l'air, a protesté auprès de De Gaulle contre le manque d'aide apportée aux combattants du Vercors. De Gaulle a exigé publiquement un rectificatif. La délégation du Comité central à Alger, dirigée par Marty, a publiquement désavoué Fernand Grenier et a donné ce rectificatif. Vous voyez comment, officiellement, il ne fallait rien faire qui puisse gêner De Gaulle parce qu'on avait décidé que c'était lui qui représentait la fraction la moins dangereuse de la bourgeoisie française. Le 18 août 1944, vous connaissez les événements, la grève générale à Paris, la direction clandestine du Parti communiste coupe avec la direction des FTP, sort une affiche qui est signée des élus, y compris de ceux qui n'étaient pas en France et qui étaient en Algérie, des élus d'avant la guerre. Une affiche, la première affiche officielle du Parti communiste étant signée uniquement des élus d'avant-guerre, c'est bien la démonstration qu'on veut reprendre le parti exactement au point où on l'avait laissé en 1939 et recommencer. Fermer la parenthèse ouverte en septembre 1939, reprendre la vie légale, recommencer le Front populaire et le Front français, toujours cette analyse mécaniste, déterministe, antidialectique, contraire aux lois du changement et du mouvement. Nous avons eu raison hier et on ne nous a pas écoutés, alors faisons aujourd'hui ce que nous n'avons pas pu faire hier. C'est le simple raisonnement de l'époque. Au FFI et au FTP, on prône l'intégration dans l'armée. La question reste posée, si les communistes en armes n'étaient pas partis dans l'armée, que se serait-il passé? Ils sont partis dans l'armée, où effectivement ils ont été désarmés, et encadrés par des officiers anciens vichistes. Les cadres FFI et surtout FTP se sont trouvés dégradés, complètement dans cette nouvelle armée qu'on disait française. Les FTP, qui représentaient une réalité armée et puissante, au sens politique élevé, une formation dans laquelle s'était réalisée l'unité de combat entre communistes et les autres, sous la direction des communistes, les FTP disparaissent. Comme disparaîtra très vite, un an plus tard, la glorieuse jeunesse communiste, qu'on dissoudra dans une union de la jeunesse républicaine de France pour donner des effectifs à Ducolonnet et Paul Laurent. Dans cette dernière partie, il faut quand même rappeler que tout n'a pas été tout seul. En septembre et octobre 1944, la direction du Parti communiste exige le maintien des milices patriotiques armées, alors que le gouvernement en réclame la dissolution. le 27 octobre 1944 à la Mutualité, Duclos parle des milices patriotiques comme pouvant servir à l'éducation militaire des masses populaires. Comme le gouvernement dissout les milices patriotiques, on les transforme en GCR, Garde civique républicain. Le 28 octobre. Le 6 novembre, un décret de De Gaulle amnistie Thorez. De Gaulle dira dans ses mémoires, son retour à la direction du PC comportait plus d'avantages que d'inconvénients. C'était le 6 novembre 1944. Le 27 novembre 1944, Thorez, Jeannette Vermeersch et Ramette rentrent en France. Première déclaration de Thorez, un seul État, une seule police, une seule armée. Dissolution des milices patriotiques et rendez les armes. Pour ceux qui avaient fait courir le bruit que Thorez était resté un instant en France, en 1940, le brave vieux Marcel Cachin apporte un témoignage involontaire et il s'écrie « Il nous est enfin rendu après une séparation de 5 années. » 27 novembre 1944, moins 5, égale. Le 10 décembre 1944, De Gaulle se rend en Union soviétique, il signe un traité d'assistance. La direction du Parti communiste a enfin ce fameux traité franco-soviétique qu'elle avait successivement réclamé comme élargissement du pacte germano-soviétique en septembre 1939, qu'elle avait préconisé à la propagande d'Achtafl comme raison de faire reparaître l'humanité pour militer dans ce sens. Un pacte franco-soviétique qui élargirait le pacte germano-soviétique. Il arrive le 10 décembre 1944, le malheur c'est qu'il n'y a plus de pacte germano-soviétique à ce moment-là. 23 janvier 1945 à Ivry, Thorez revient sur les principes de la légalité, du respect de la légalité. En février 1945, les Alliés se réunissent à Yalta et se partagent le monde, européen au moins. Vous avez vu que depuis, il ne se passe plus d'événements révolutionnaires que dans les pays qui n'ont pas été concernés par les accords de Yalta. Que devient la SFIO pendant ce temps-là? La SFIO, en 1939, était déjà tiraillée entre Blum et Paul Fort. Léon Blum, vous en avez entendu parler, le vieux théoricien et le vieux politicien du Parti Socialiste. Paul Fort, qui avait lui aussi pris Blum de gauche, pour arriver à la direction et au secrétariat général du Parti Socialiste. Blum s'était élevé contre la dissolution du Parti Communiste le 26 septembre 1939, alors que Paul Fort avait applaudi. Et les socialistes avaient refusé d'entrer dans le gouvernement de Daladier. Mais en mars 1940, ils étaient entrés dans le gouvernement Paul Reynaud. Le 12 mai 1940, ils avaient tenu un conseil national à Montrouge, où le mot d'ordre avait été de briser l'agression et de protéger le territoire national. Mais à ce conseil national de Montrouge, la tendance de Blum, qui défendait ce point de vue, ne l'avait emporté que de justesse contre la tendance de Paul Fort. Et les amis de Paul Fort ont réussi très vite à entraîner la majorité du groupe parlementaire contre Léon Blum. Et c'est cette majorité du groupe parlementaire suivant Paul Fort qui, le 10 juillet 1940 à Vichy, alors un vrai celui-là de 10 juillet 1940 à Vichy, va faire que 90 socialistes vont donner les pleins pouvoirs à Pétain, 36 socialistes vont voter contre les pleins pouvoirs à Pétain, 6 vont s'abstenir et 26 sont mobilisés ou absents. Il y a là une opposition très violente des deux fractions du groupe. Comme c'est un parti uniquement parlementaire, c'est au niveau du Parlement et du groupe parlementaire que les problèmes politiques se posent. Les deux fractions du groupe parlementaire socialiste en viennent aux mains, à la bataille physique. Mais les partisans de Paul Fort détiennent le secrétariat général et l'appareil, puisqu'il était secrétaire général. Ils conservent tous les renseignements d'organisation. Il ne reconstitue aucune organisation clandestine du Parti socialiste. La France est envahie en juillet 1940. Il ne donne aucune directive aux organisations de base et il ne tente aucun regroupement. Il faudra attendre en zone sud que se crée un comité d'action socialiste créé par Henri Ribière pour que le gouvernement de Vichy soit dénoncé par les socialistes. C'est à la fin de 1941. Et c'est en juin 1942 seulement que le Populaire clandestin est publié de nouveau à Lyon. En zone nord, en janvier 1941, un comité d'action socialiste s'est mis en place. Et les socialistes sont partis dans diverses organisations de résistance. Libération Nord, l'organisation civile et militaire en zone nord, Combat et Franc-Tireur en zone sud. Mais la plupart des militants socialistes qui ont voulu mener une action dans cette période-là se sont regroupés dans des organisations syndicales clandestines, dont je dirai un mot dans une minute. Retenons que le Parti socialiste jouera à ce moment-là le jeu de la présence. Il s'arrangera pour être représenté partout où se constitue quelque chose. Il sera ainsi représenté dans tous les comités locaux de libération, même quand il n'aura aucune organisation locale. Il se fera représenter dans tous les comités départementaux de libération, il sera évidemment représenté au Conseil national de la résistance, et dans le gouvernement provisoire d'Alger, il détiendra 4 postes ministériels alors que les communistes n'en auront que 2. Et toujours on verra les services gaullistes jouer de la présence des militants socialistes pour colmater l'influence des représentants communistes. Le jeu de la bourgeoisie est bien calculé là, dès l'occupation, s'appuyer sur les socialistes pour paralyser le développement des communistes. Les préfets de la Libération sont tous contrôlés par Tixier, qui est au CFLN d'Alger le ministre de l'Intérieur et qui est un socialiste. Les commissaires de la République, c'est-à-dire les préfets de région, sont aussi des hommes contrôlés par Tixier. Donc, la SFIO a réussi, en arrivant tard, à se placer, par anticommunisme, à se placer au poste lui permettant d'occuper les emplois et les responsabilités les plus importantes. Les syndicats, maintenant. Dans cette période, il faut rappeler les 3 tendances de la CGT reconstituée en 1936. Première tendance, les ex-unitaires de la CGTU, groupés autour du journal La Vie ouvrière, avec Frachon, Racamon, Croizat, Sémar et Arrachard. La deuxième tendance, celle du bureau confédéral CGT, c'est-à-dire celle de Jouot, Bottereau, Neumeyer et Robert Lacoste, celui de Géry, qui était le secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires. Et la troisième tendance, la tendance syndicaliste pacifiste, celle qui s'est groupée autour du journal Syndicat, et qui reprend curieusement les anciens mots d'ordre du Congrès d'Amiens contre l'intrusion de la politique dans les syndicats. De ce point de vue, quand même, vous trouverez souvent, je dirai très vite, mais vous trouverez souvent entre syndicats dans la période de l'occupation et force ouvrière actuellement, des similitudes. Moins dans les grandes directions. Pas dans la collaboration avec les nazis, hein, mais dans les choix syndicaux. Syndicats, c'est René Bellin, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Froideval, c'est Georges Dumoulin, c'est Delmas du syndicat des instituteurs, c'est Vigne de la fédération du sous-sol. C'est-à-dire des fédérations importantes et des organisations syndicales importantes. Les hommes de syndicats défendent l'alliance avec l'Angleterre. Et c'est au nom de l'alliance avec l'Angleterre qu'ils soutiennent la non-intervention en Espagne contre les 2 autres tendances de la CGT. Jouot, Bottereau et Frachon-Racamon étaient contre la non-intervention en Espagne dans la CGT, tandis que les hommes du syndicat étaient pour la non-intervention, en disant qu'il ne faut pas briser l'alliance avec l'Angleterre. Ils soutiennent Chamberlain et Munich, Ils soutiennent l'Angleterre systématiquement, vous devinez pourquoi. En réalité, derrière la création de syndicats, il y a la franc-maçonnerie anglaise et ses ramifications en France. C'est intéressant de savoir ça pour voir l'évolution. En septembre 1938, les anti-munichois qui étaient dans le syndicat, le quittent le syndicat, entraîné par Guerdan. Mais en novembre 1938, c'est-à-dire après Munich, la tendance syndicat recueille encore le tiers des mandats au congrès de la CGT à Nantes. Georges Dumoulin se félicite de ce résultat. Le pacte germano-soviétique donne évidemment à un syndicat l'occasion de se rapprocher de Jouot et de Bottereau, et le 18 septembre 1939, les deux tendances, syndicats d'une part et Jouot et Bottereau, les majorités des bureaux confédérales CGT d'autre, se réunissent pour exclure de la CGT les ex-militants unitaires. Le syndicat appelle même au meurtre, ouvertement. La mise hors d'état de nuire définitive par mesure de salubrité publique, demande le syndicat. Froideval dit que les communistes sont les agents de Hitler. Il deviendra le chef de cabinet de Belin à Vichy. Et Chassagne emploie l'expression le bolcho-nazisme, c'est-à-dire qu'ils se donnent des allures anti-nazis pour faire passer leur tendance. Georges Dumoulin refuse de tendre la main à Parsal, Delobel et Bourneton, qui ont quitté la CGT au moment du pacte germano-soviétique, qui ont quitté la tendance, qui ont désavoué le pacte germano-soviétique. Ils sont restés dans la CGT, mais ils ont désavoué le pacte germano-soviétique. Ils ont quitté la tendance de l'ancienne CGT. Georges Dumoulin refuse de leur tendre la main, alors qu'ils sont dans la CGT tous. Dumoulin se souvient sûrement que dans le Nord, il était le rival de Bourneton au temps de la CGT et de la CGTU. Quand Bourneton tombera abattu par les groupes spéciaux du PC dans la région de Saint-Étienne, il tombera au cri de « Vive les communistes français ». Vous voyez peut se passer dans la tête d'un militant ouvrier qui restait sûrement fidèle jusqu'à sa mort. Le 14 juillet 1940, René Belin est ministre de la production industrielle et du travail de Pétain. Il reste ministre de Laval jusqu'au 23 février 1941, puis il est secrétaire d'État de Darlan jusqu'au 18 avril 1942, c'est-à-dire qu'il est ministre pendant 2 ans du gouvernement Pétain. Il a pour chef de cabinet Froideval, et c'est lui qui, le 9 novembre 1940, titre de gloire pour un responsable syndical, signe le décret vichiste de dissolution des syndicats. Mais cette attitude de Belin amène la rupture définitive avec Jouot et Bottereau. Dans une certaine mesure, du côté des socialistes, l'attitude de Belin a clarifié la situation. Jouot et Bottereau n'auraient peut-être pas eu ultérieurement l'attitude qu'ils ont eue, l'attitude anti-nazie et anti-collaborationniste, si Belin et Froideval n'avaient pas eu cette attitude aussi outrancièrement collaborationniste. Dumoulin et Vigne resteront les partisans les plus actifs de la collaboration avec les nazis. Je vous ai dit tout à l'heure, ils trouveront même que l'organe syndicat n'était pas allé assez loin dans la politique de collaboration, et il crée l'Atelier, un journal pro-nazi. Je vous ai dit qu'en août 1940, Benoît Frachon avait appelé à la reconstitution de comités populaires. Ils se sont vraiment mis en place en décembre 1940. On doit historiquement les considérer comme les premiers lieux de réunion des militants communistes. En réalité, c'est par des comités populaires remis en place à partir de militants syndicaux un peu partout, que des communistes ont commencé à se regrouper, à se retrouver. Le 17 avril 1943, les accords du Perreux sont signés après une discussion entre Bottereau et Jouot d'une part, Frachon et André Tollé de l'autre. Les syndicalistes socialistes qui n'avaient pas suivi Belin s'était regroupé dans le comité d'études qui avait publié le manifeste syndicaliste français. C'est ces syndicalistes du manifeste syndicaliste français que représentaient Pottereau et Jouot à l'entrevue du Perreux. La première déclaration du bureau confédéral reconstitué dit premièrement action revendicative, deuxièmement chasser les traîtres du mouvement ouvrier. On retrouve là la préoccupation constante des militants socialistes de séparer l'action politique de l'action syndicale. Il n'y a pas un mot d'action politique là-dedans.